Cessez-le-feu théorique en vigueur depuis la mi-avril. Plusieurs projectiles ont été tirés cette nuit depuis le pays du Cèdre en direction d'Israël. L'armée israélienne a, elle, avancé hier dans son invasion du...
Radio G. www.radio-g.fr.
D'idées de lecture, envie de découvrir de nouveaux genres ou juste à la recherche d'un premier pas dans le monde des livres, Voix au chapitre, c'est ta dose hebdomadaire de découverte littéraire. Un livre, un extrait, deux émissions. Juste ce qu'il faut pour réveiller la curiosité et l'envie de tourner les pages. Présenté par Manuela, tous les samedis à 9h10 au 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de Voix au chapitre. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Samedi dernier, nous avions commencé la découverte du roman Le soleil des rebelles de Luca Di Fulvio. Dans ce premier extrait, le jeune Marcus, prince de Saxe, avait vu ses parents mourir dans l'attaque du château dans lequel il avait grandi. Il avait été sauvé d'un destin fatal par la fille d'une domestique qui l'avait accueilli. Et maintenant, il va falloir que notre jeune garçon s'adapte à une nouvelle vie et à la perte de son statut. Je vous retrouve après cet extrait. Bonne écoute sur Radio G. Avant que ces images ne l'emportent dans un abysse, il rouvrit les yeux. La femme le regardait, sans le toucher. L'enfant l'a reconnu. C'était Agnette, la sage-femme. « Tu es chez moi », dit-elle alors. Il ne bougea pas un muscle, ne regarda pas autour de lui, ne dit pas un mot. « Tu te souviens de ce qui s'est passé ?» lui demanda Agnette. L'enfant la regardait sans la voir, toujours immobile. « Il est devenu idiot, mère ?» demanda Eloïsa. « Je t'ai dit de te taire !» lui dit sa mère. Elle s'adressa de nouveau à l'enfant. « Tu m'entends ?» lui demanda-t-elle d'un ton sec et brusque. Il acquiesça imperceptiblement. « Et tu comprends ce que je te dis ?» Il acquiesça de nouveau. « Dis-moi, tu te souviens de ce qui s'est passé ?» L'enfant se mordit les lèvres et ferma les yeux pour retenir ses larmes. Quand il les rouvrit, Agnette le fixait toujours. « Tu peux parler ?» demanda-t-elle. L'enfant ne répondit pas. Agnette l'attrapa par le bras. « Il faut te lever maintenant. Tu ne peux pas rester ici éternellement, » dit-elle en le faisant s'asseoir. Il s'aperçut alors qu'il était jusque-là couché sur une table, près d'une cheminée arrondie, dans une baraque sombre où planait une odeur de sueur et d'oignon. Dans un coin, une couche de paille recouverte d'une peau de vache. « Bois !» dit Agnette en lui tendant une louche d'eau. L'enfant fit signe que non. « Bois !» répéta Agnette. L'enfant but, puis toussa. « Tes poumons doivent se nettoyer de la fumée. Bois encore !» L'enfant obéit. Agnette le poussa à bas de la table, sans ménagement. Elle n'avait pas la douceur d'Eléika. Et ses mains étaient rêches et fortes. « Déshabille-toi » ordonna-t-elle. Eloïsa ricana. L'enfant ne bougeait pas. « Tu as compris ce qui s'est passé au château ?» demanda Agnette avec rudesse. L'enfant hocha la tête. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» insista Agnette. L'enfant serra les lèvres. « Il est devenu muet, mère ?» demanda Eloïsa. « Si Dieu pouvait te rendre muette, toi, je t'ai dit de te taire !» Elle se tourna vers l'enfant. « Tout le monde a été tué, les serviteurs aussi. Tu sais ce que ça veut dire ? Il va y avoir un nouveau prince, et ça dérangera les plans de ce bâtard que tu sois encore vivant. C'est plus clair maintenant ?» L'enfant sentait les larmes lui monter aux yeux. « Tu es vivant parce que ma fille t'a sauvée, » continua Agnette. « Elle t'a traînée toute seule hors du château. Elle t'a cachée sous un buisson et elle est venue me chercher. Et moi, je t'ai portée jusqu'ici dans un sac. Je l'ai fait pour elle et aussi parce que je t'ai fait naître, comme plein d'autres enfants. Et je veux pas être complice de ta mort ou détourner la tête. » Elle approcha son visage du sien. « Ta seule chance pour continuer à vivre, c'est de ne plus être qui tu es. » Il ne comprenait pas. Cette femme lui faisait peur. Jamais personne ne lui avait parlé de cette façon. « Déshabille-toi avant que je perde patience, » ajouta-t-elle. L'enfant ne bougea pas. Agnette lui enleva alors sa peau de cerf, qu'elle arracha presque. Elle fit de même avec ses autres vêtements, jusqu'à ce qu'il soit complètement nu. Et Loïsa ricana encore. Les fourrures à la main, Agnette alla vers la cheminée. « Regarde comme c'est beau, » marmonna-t-elle. « On n'a qu'à les vendre au marché, » dit Eloïsa. « On ne vendra rien, crétine, » répondit sa mère, en jetant les précieux vêtements dans le feu. « Est-ce qu'une pouilleuse comme toi pourrait avoir des fourrures comme ça à vendre ? À qui tu veux qu'elle soit ? Sinon à un prince, un petit prince, que tout le monde croit mort, » conclut-elle en se retournant vers lui. Et tandis qu'une odeur piquante de poils brûlés se répandait dans la pièce, elle prit d'autres vêtements dans un coffre en bois. « Tu oublieras la douceur du velours et la chaleur de la laine, gamin. Tu lutteras contre le froid, comme nous tous, avec une petite veste en drap et des peaux de lapin. Tu apprendras à te pisser sur les mains pour ne pas avoir d'engelures. Et si tu ne tombes pas malade et que tu ne meurs pas, tu deviendras fort comme nous. » Elle lui tendit des vêtements, mêlés. C'était à mon fils. Sa voix hésita un instant, puis d'un ton dur, comme pour écarter une pensée, elle ajouta « Lui, il n'a pas pu. Il n'a pas pu devenir fort. » Les habits à la main, l'enfant ne bougeait toujours pas. « Habille-toi !» lui cria presque Agnette. Et pour la première fois de sa vie, il s'habilla seul. Dès qu'il eut enfilé les vêtements, il sut qu'il allait avoir très froid. « Personne ne t'appellera plus jamais prince, ni messire, ni par ton nom. Je veux même pas le prononcer. » dit Agnette en s'emparant de la paire de ciseaux qui lui servait à tondre les chèvres. Elle poussa l'enfant jusqu'à une chaise déglinguée et le fit asseoir. Elle souleva les longs cheveux blonds et les coupa entièrement, à ras du crâne. « Qu'ils sont beaux !» dit Eloïsa en regardant les boucles d'or qui tombaient par terre. « Brûle-les !» ordonna sa mère. Eloïsa les ramassa et les jeta dans la cheminée. Mais elle glissa discrètement une longue mèche dans sa poche. Agnette plongea les mains dans une flaque noire et puante que les gouttes d'eau tombées du toit avaient formée dans un coin de la pièce. « À partir d'aujourd'hui, tu seras sale et tu sentiras mauvais, comme nous !» dit-elle en frottant ses mains noires sur le visage et la poitrine de l'enfant. Elle lui pinça la chair. « T'es gras comme une noix, mais bientôt on te verra les côtes, comme à nous tous. » L'enfant n'arrivait plus à retenir ses larmes. « Apprends à supporter la douleur, » lui reprocha Agnette d'un ton dur, implacable. « Regarde, » dit-elle pendant qu'elle se tournait vers Eloïsa et lui assenait une violente gifle en pleine face. Eloïsa encaissa en silence, malgré le sang qui lui coulait du nez. Elle ne pleura pas, ne se plaignit pas. Agnette se tourna vers l'enfant. « T'as vu ? Pourtant c'est une fille. Essuie-moi ses larmes !» ordonna-t-elle. Il passa le dos de sa main sur ses yeux, terrorisé à l'idée de prendre une gifle, lui qui n'avait jamais été frappé. Agnette acquiesça, satisfaite, puis déplaça le coffre en bois dans lequel elle avait pris les vêtements de son fils mort. Elle découvrit dans le plancher une trappe qu'elle ouvrit et montra à l'enfant. « Tu resteras caché là jusqu'au jour où tu seras devenu quelqu'un d'autre et où ils t'auront oublié. Après, j'inventerai une histoire pour expliquer comment tu es arrivé dans notre vie. » Il regardait la trappe et le trou noir avec terreur. Agnette l'attrapa fermement par le bras et l'entraîna vers le trou. Il se mit à pleurer et résista de toutes ses forces, les pieds plantés dans le sol. Agnette lâcha son bras et le saisit par l'oreille. Elle le tira jusqu'à la porte de la baraque. « Personne ne te retient, gamin, » dit-elle d'une voix dure en ouvrant grand la porte. « Je sais pas si tu échapperas aux bandits, ni ce que tu mangeras, ni où tu dormiras. Mais t'es libre de partir. S'ils découvraient qu'on t'a sauvé la vie, ils nous trancheraient la gorge. Je veux pas que tu mettes nos vies en danger. Décide, où tu t'en vas, où tu restes, mais à mes conditions. » L'enfant regarda dehors. Ce jour-là, dirait-il plus tard, le bon Dieu semblait s'être retiré de chaque endroit du monde où son regard se posait. La rue principale du village était un fleuve de glace boueuse, brisé par les empreintes des bêtes et des hommes. Et dans ce gel livide, incolore, il vit un vieux se traîner jusqu'à un os de vache et s'y agripper, avec les quelques forces qui lui restaient. Un chien, grognant et bavant, le lui disputa. Vaincu par la furie de l'animal, le vieil homme éclata en sanglots, comme un enfant. Au loin, au nord de la Roundval, la cime de la colline qui dominait la vallée était enveloppée de la fumée dense de l'incendie qui faisait toujours rage dans le château. Un souffle de vent glacé semblait porter jusqu'à ses narines l'odeur de la chair brûlée. Son cœur cogna dans sa gorge quand il comprit que cette nuit, le vieil homme et le chien chercheraient leur nourriture dans les braises fumantes. La tête basse, il s'écarta à pas lents de cette porte, ouverte sur l'enfer. Il entendit qu'on la refermait. Au-dessus de la trappe, il regarda Agnette. « Tu dois changer de nom, » dit-elle. « Comment tu veux t'appeler ?» L'enfant haussa les épaules. « Comment tu veux t'appeler ?» répéta Agnès. L'enfant ne répondait pas. « Michael !» s'exclama Eloïsa. Agnès fixa l'enfant. « Ça te va, Michael ?» Il haussa de nouveau les épaules. « Bon, tu t'appelleras Michael, » dit-elle. « Et si ça ne te plaît pas, il ne faudra pas venir protester parce que c'est ma fille qui te l'a donné. Si ça ne te plaît pas, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même, puisque tu n'as pas su décider. Dans la vie, il faut choisir. Rappelle-toi. » Elle alluma une chandelle de suie qui donnait une faible lumière et la lui tendit. « Fais-la durer, sinon le dernier barreau est cassé. Tu trouveras une couverture et une cuvette avec des braises. Entre là-dedans, maintenant. » Il regarda avec effroi le trou noir où il devait se glisser, puis commença à descendre l'échelle branlante. Agnès referma la trappe. « Madame » entendirent-elles alors. « Il n'est pas muet, » dit Héloïsa en souriant. Agnès ouvrit la trappe. « Madame » appela de nouveau l'enfant d'une petite voix. « Qu'est-ce que tu veux ? Il n'y a pas de lit ?»« Non, mais moi, d'habitude, je dors dans un lit. » Il y eut un long silence, puis Agnès dit « Tu n'auras plus jamais de lit. Maintenant, tu es l'un des nôtres. »
Vous écoutez toujours Voix au chapitre sur Radio G, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr, où je vous plonge aujourd'hui dans le roman « Le soleil des rebelles » de Luca Di Fulvio. Bonne écoute.
Chapitre 6. Les jours suivants, Michael comprit ce que voulait dire sa vieille gouvernante Eilika quand elle disait que le froid mord la chair des pauvres. Son corps était secoué de tremblements, jour et nuit. Ses dents claquaient parfois si fort qu'elles faisaient un bruit terrible dans le silence de sa cachette. Les doigts de ses mains et de ses pieds étaient engourdis et il devait parfois faire un effort pour les bouger. La braise de la cuvette, le soir, s'éteignait trop vite. Ses muscles toujours contractés étaient douloureux. Ses yeux larmoyaient, ses oreilles étaient livides, son nez coulait sans arrêt. Il ramenait les jambes contre sa poitrine et restait assis sur la paille, enveloppé dans la couverture légère. Il attendait avec anxiété le moment où Agnès et Eloïsa se réveilleraient à l'aube. Il les écoutait ranimer le feu, remuer la marmite et finalement ouvrir la trappe et lui passer à manger. L'écueil de bouillon avec quelques rares légumes et la tranche de pain dur. Avant de manger, il trempait ses doigts dans le bouillon chaud, savourait la chaleur qui montait dans ses phalanges gelées. Il cessait de trembler. C'était une sensation magnifique. Ensuite, il mangeait. Son estomac était toujours vide et contracté. Il mangeait avidement, sans faire la grimace, sans penser à la fadeur du bouillon ni à la farine grossière. Il n'aurait rien d'autre jusqu'au soir. Dès qu'il avait terminé, il attendait, retenant sa respiration, qu'Agnès ou Eloïsa lui demandent la cuvette, qu'elle remplissait à nouveau de braise. Il leur tendait la cuvette glacée, elle la lui rendait chaude. Il s'asseyait, la cuvette entre ses jambes croisées, et formait une tente en mettant sa couverture sur sa tête. La tiédeur montant des braises gagnait ses cuisses, pénétrait sa poitrine, cuisait ses joues jusqu'à provoquer une douleur nouvelle, l'inverse de celle du froid. Peu à peu, la torpeur prenait le dessus. Ses yeux se fermaient, sa tension se relâchait. Le sommeil éloigné par la nuit glacée prenait artificiellement le dessus, violent comme un évanouissement. Michael entendait à peine la porte grincer quand Agnès et Eloïsa partaient. Pendant un instant, avant de s'écrouler, il se savait seul, plus seul que jamais. Et il espérait que son sommeil soit le plus long possible, noir, vide. Mais il se réveillait vite, la bouche ouverte dans un cri silencieux, les yeux écarquillés sur des scènes de mort et de sang. Il secouait furieusement la tête, comme les chiens, pour se débarrasser de l'eau qui les mouille. Puis il pressait les poings sur ses paupières et le noir se peuplait de lueurs scintillantes, comme un ciel étoilé, empêchant sa nuit intérieure de s'emplir, d'images de mort. Il retenait sa respiration jusqu'à s'en faire exploser les poumons, pour que ses narines ne se souviennent pas de l'odeur âcre du feu où brûlait la chair humaine. Quand il reprenait son souffle, il pleurait en silence. Ses larmes grésillaient dans la braise, qui s'éteignait peu à peu. Alors, il écoutait le silence, brisé seulement par les cloches de la petite église de Notre-Dame-des-Neiges, qui sonnaient les heures brèves de l'hiver. Et il avait peur, une peur sans fin, parce que le temps s'écoulait lentement, toujours égal à lui-même. Obscur de jour comme de nuit, dans son étroite prison de 3 pas sur 3, quand sonnaient les vêpres, la porte de la baraque s'ouvrait. Agnès et Eloïsa rentraient. Elles cuisinaient une soupe de navets ou de racines amères, parfois avec de l'orge ou du seigle, parfois avec un bout de couenne de porc ou un os de genou, qu'elle ne lui donnait jamais. Michael était incapable de leur parler. Un soir, il avait entendu Eloïsa demander « Pourquoi il parle pas, mère ? Laisse-le tranquille. « Pourquoi il parle pas ?» avait insisté sa fille. « Pour pas se casser », avait répondu Agnette de sa voix dure. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Laisse, dors. » Michael venait de les entendre se coucher, épuisés. Agnette ronflait comme un homme. Une nouvelle nuit commençait, qui serait semblable à la précédente. Interminable, silencieuse, froide et menaçante. Et maintenant, sans savoir ce que cela voulait dire, il avait peur de se casser. Le seul contact que Michael avait timidement établi, c'était avec le petit rat qui, après leur première rencontre, s'était enhardi et lui tournait souvent autour. Cette nuit-là, alors que Michael, recroquevillé sur sa paille, tremblait de froid, le petit animal s'approcha, curieux. Après lui avoir inspecté les cheveux, il lui renifla la figure, les yeux, le nez, la bouche. Michael, immobile, tentait de résister au chatouillement des longues moustaches. Le rat se glissa sous son menton, flaira un peu alentour, puis se leva au creux de son cou en léchant ses petites pattes arrière. « Comment tu veux t'appeler ?» chuchota Michael. Le rat s'installa mieux. « Bon, » dit Michael, « tu t'appelleras Hubertus. Et si ça ne te plaît pas, il ne faudra pas protester, parce que c'est moi qui te l'ai donné. Si ça te plaît pas, tant pis pour toi, t'avais qu'à le choisir toi-même. » répéta-t-il comme un refrain, tandis que le tiède contact du rat le faisait se sentir moins seul. Le lendemain matin, dès que la trappe s'ouvrit, Hubertus se sauva. « Ce soir, tu vas rencontrer quelqu'un, gamin », annonça la voix d'Agnette. « Tiens, mange », lui dit Eloïsa en lui tendant l'écuelle de bouillon et le morceau de pain quotidien. Michael les prit. « Pourquoi tu parles pas ?» demanda Eloïsa. Michael ne répondit pas. « C'est bizarre, tu sais », dit Eloïsa. Michael la regarda en silence. Eloïsa aussi le fixait. « Le pâté de viande que tu m'as donné ce jour-là, il était bon. » J'avais jamais rien mangé d'aussi bon. » Michael ne bougeait pas. Tu ressembles à une statue, dit-elle, ou à un crétin. Michael baissa les yeux. On y va, cria Agnette. Eloïsa lui passa la cuvette avec de nouvelles braises, puis chuchota. Cherche dans le bouillon. Michael la regarda sans comprendre. T'es vraiment un gros bêta, dit-elle en éclatant de rire. Elle ferma la trappe, poussa le coffre dessus et s'en alla. Michael porta l'écueil du bouillon, le morceau de pain et la cuvette de braise jusqu'à sa couche. Il s'assit, comme tous les matins. Il trempa ses mains dans le bouillon. Il était agréablement chaud. Il frissonna, puis il sentit sous ses doigts quelque chose de gluant. C'était un morceau de lard. Un flot de salive envahit sa bouche. Il mordit dedans et mâcha lentement, parce que ses mâchoires lui faisaient presque mal. La saveur était merveilleuse. À ce moment-là, Hubertus, le nez frémissant, émergea de l'obscurité. Il s'avança sans aucune pudeur et monta sur sa cuisse en tendant ses petites pattes. Michael détacha un bout de lard avec ses dents et le lui donna. « C'est le plus meilleur que t'as jamais mangé, tu verras », lui dit-il. Ils finirent le lard et Michael se consacra au pain et au bouillon. À Hubertus, il donna aussi un bout de pain. Quand ils eurent tout terminé, jusqu'à la dernière miette, le rat monta sur son épaule, renifla son oreille, puis se glissa dans la casaque de Michael, jusqu'à son ventre tiède où il s'installa. « T'es vraiment un gros bêta », lui dit Michael. Ils restèrent ainsi, immobiles, jusqu'au moment où les vêpres sonnèrent à Notre-Dame-des-Neiges. La porte de la baraque s'ouvrit et l'on entendait la voix d'Agnette. « Entrez, Raphaël !» Hubertus courut se cacher dans le noir et la voix d'un homme répondit « Merci, Agnette !» La porte se referma. « Il est là, en dessous !» dit Eloïsa tout excitée. Nous terminons donc la découverte de ce roman à l'ambiance très historique là-dessus. Pour moi, Luca Di Fulvio est un grand auteur, dans sa manière d'aborder les relations humaines et dans l'importance qu'il donne à l'ambiance toujours bien décrite des époques dans lesquelles ses romans se trouvent. Le Soleil des Rebelles est mon préféré de ceux-là, mais ma première expérience avec cet auteur était le roman Les Prisonniers de la Liberté. Tous ces romans sont disponibles aux éditions Slatkin et compagnie ou au format poche chez Pocket. Plus facilement trouvables en poche qu'en grand format, à mon expérience. Vous pouvez toujours retrouver dès maintenant les deux émissions dédiées à ce roman sur radio-g.fr, rubrique Voix au chapitre. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un roman dont le titre divulgâche la fin de l'histoire. En attendant, restez connectés sur Radio G pour l'émission Samedi Souvenir de 10h à midi. Il est temps de tourner la page pour aujourd'hui. Bon week-end!
Radio G 101.5 FM.
This world.